Vous écoutez On lit pour vous.
Insertion et maintien en emploi des personnes en situation de handicap, le Québec nous met les bâtons dans les roues. Un texte d'Adèle Liliane Nguyen-Ben-Encott, organisatrice communautaire en défense des droits. Les personnes en situation de handicap, PSH, particulièrement les personnes ayant une lésion médulaire, sont en recherche constante d'autonomie. Elles veulent s'accomplir professionnellement et contribuer à l'avancement de leur communauté. L'insertion et le maintien en emploi font partie intégrante de cette quête, qui est bien souvent difficile à réaliser à cause de nombreux obstacles architecturaux et d'accès à une multitude de services, soins à domicile, matériel d'élimination, déneigement, transport adapté, TA. Plusieurs personnes lésées médulaires ainsi que d'autres PSH dépendent quotidiennement des soins à domicile qui ne répondent pas toujours adéquatement à leurs besoins. En effet, nous observons depuis plusieurs années un recul quant à la qualité des soins et une baisse importante du nombre d'heures de services accordées. Les bris de service et le roulement de personnel ne sont plus des exceptions. Concrètement, une personne qui subit un bris de service ou un retard de service faisant en sorte qu'elle est mise au lit à 1h du matin au lieu de 22h est affectée pour la journée suivante. De même, un usager qui voit un bris de service le matin pour la sortie du lit et l'habillement ne pourra pas se rendre à son travail. La diminution des services d'hygiène limités uniquement à un bain par semaine nuit également à la qualité de vie professionnelle de l'usager et pose un véritable problème d'hygiène. De plus, à l'exception d'un projet pilote, les PSH qui ont besoin de soins dans la journée ne peuvent pas les recevoir sur leur lieu de travail. En conséquence, ces personnes ne peuvent pas avoir de travail. Le Québec choisit donc de mettre ces personnes au banc de la société. Le matériel d'élimination. Pour les personnes qui ne sont pas couvertes par la SAAC, la CNESST ou l'IVAC, l'accès au programme d'aide matérielle pour les fonctions d'élimination, PAMFÉ, géré par les CLSC, reste difficile dans plusieurs régions. À Montréal, les gens attendent de 4 à 8 semaines pour recevoir ce matériel, dépendamment du CLSC. Le problème est plus criant en région, où les gens attendent des mois, même des années. Quand les gens finissent par être admis au programme, ils ont, par exemple, droit à un cathéter par jour au lieu du nombre prescrit par les médecins. Or, les bonnes pratiques recommandent d'utiliser un cathéter neuf pour chaque usage. Et nous savons que, malheureusement, l'usage multiple de cathéters est la cause fréquente d'infections urinaires. D'après les informations que nous avons reçues de nos membres, l'accès au matériel d'élimination, et particulièrement au cathéter, reste un problème dans les régions suivantes: Laurentides, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais, Longueuil, Estrie, Laval, Montréal et Montérégie. L'accès à ce matériel est d'autant plus difficile que les personnes qui ne parviennent pas à l'avoir n'ont pas toujours d'intervenant pivot qui devrait veiller à ce que les usagers obtiennent les soins et services dont ils ont besoin. L'absence de ce matériel ou son insuffisance est souvent à l'origine d'infections urinaires qui ont de graves conséquences sur la santé de ces personnes. Lorsqu'elles occupent un emploi, de telles infections sont la cause de nombreux jours d'absence, ce qui met le travailleur à risque de perdre son emploi. Le transport adapté et le déneigement. L'hiver est une saison névralgique pour les PSH qui dépendent du transport adapté. Cette saison est source d'un stress récurrent parce qu'elles ne sont jamais certaines d'avoir leur transport après des chutes de neige. Le déneigement des débarcadères n'est pas prioritaire. Cela a pour résultat qu'après d'importantes chutes de neige, les gens ne peuvent pas prendre leur transport pendant plusieurs jours, ce qui les prive, ainsi que leurs employeurs, de plusieurs jours de productivité dans une année. À Montréal, la ville a adopté une nouvelle procédure de déneigement, prévoyant le déneigement des débarcadères au plus tard 8 heures après la chute de neige dépassant 5 cm. Cette procédure sera donc à suivre au courant de la prochaine saison. À l'exception de la grande région de Montréal et de certaines villes, l'accès au transport adapté, TA, tend à diminuer drastiquement ou à être totalement absent, et particulièrement dans les régions éloignées. Pensons ici à la région des Appalaches, où 19 municipalités sont privées de TA à partir de 18h du lundi au vendredi, ainsi que durant la fin de semaine. Concrètement, dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Colleraine, où un de nos membres, André Cloutier, a fait la manchette en 2021 pour dénoncer l'absence de théâtre dans sa municipalité après 18 heures. Quelque temps auparavant, il pouvait en bénéficier jusqu'à 20 heures, ce qui lui permettait d'aller et de revenir des rencontres du conseil municipal. Rappelons que M. Cloutier est un élu municipal en fauteuil roulant qui ne demande qu'à servir sa communauté et se voit littéralement mettre les bâtons dans les roues. Cela fait maintenant 3 ans que la situation dure. M. Cloutier finira probablement son mandat sans que cela ne soit réglé. Des exemples comme celui-ci existent dans plusieurs régions. Dans de telles circonstances, il est bon de se demander quelle est la place des PSH dans notre société et quelle place nous leur réservons dans le monde du travail. Voulons-nous réellement qu'elles occupent un emploi ou une fonction dans notre société? L'accessibilité architecturale. L'accessibilité architecturale est un autre obstacle à l'intégration et au maintien des PSH en emploi, car les rues et les espaces pour se déplacer dans les villes et municipalités ne sont pas toujours accessibles. Les bâtiments gouvernementaux et les bureaux ne sont pas toujours accessibles universellement pour les PSH. Lorsqu'un immeuble est difficilement accessible dès l'entrée, lorsqu'il n'y a pas de place de stationnement réservée, lorsqu'il n'a pas d'ascenseur, lorsque même la toilette accessible est trop petite pour accueillir un fauteuil motorisé, lorsque les espaces de circulation sont restreints, comment peut-on prétendre à une accessibilité architecturale? Voilà autant d'obstacles auxquels se butent les PSH et qui limitent considérablement leur intégration en emploi. En terminant, considérant tout ce qui a été dit précédemment, nous ne pouvons que constater avec regret que les PSH sont mis au banc de la société. Elles sont reléguées au rang de spectateurs parce que la société ne met pas en place toutes les mesures qui permettraient aux PSH d'intégrer le marché du travail et de s'y maintenir. Le Québec choisit de se priver ainsi de leurs talents et de leurs compétences au lieu de faire avancer la province sur un plan global et en faire une société réellement inclusive pour les PSH. C'était « Insertion et maintien en emploi des personnes en situation de handicap, le Québec nous met les bâtons dans les roues ». Un texte d'Adèle Liliane Nguyen-Benenkot, paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad.
Ans plus tard, Têtu porte toujours bien son nom. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 27 octobre 2025 dans le magazine Fugue. Le magazine Têtu, longtemps connu sous le nom Têtu, célèbre cette année son 30e anniversaire. 3 décennies marquées par des couvertures chocs et des entrevues mémorables, mais aussi par des périodes plus difficiles pour le média, fondé en 1995 par Didier Lestrade et Pascal Loubet. On a parlé avec son directeur de la rédaction, Thomas Vanpouille. Comment s'est déroulée cette année d'anniversaire? C'est quelque chose qu'on a fait durer toute l'année. Têtu est né à l'été 95. Le premier numéro est sorti en juillet 95, dont notre numéro spécial a été notre numéro d'été, avec Bambi en couverture. Bambi, icône trans qui va fêter ses 90 ans en novembre. Ça a bien marché, ça a été salué, je suis content parce que ce n'est pas évident de faire une couverture anniversaire. Et puis on a fait des événements autour de la Pride. On finira l'année le 10 décembre avec les Awards, la cérémonie des remises des têtus de l'année, qu'on fait maintenant depuis 3 ans et qui aura évidemment une dimension anniversaire un peu spéciale. Têtu, comme beaucoup de publications queer, a eu des difficultés, a disparu par moments, et donc c'est vraiment une fierté de pouvoir fêter ses 30 ans. Dans ce numéro spécial, tu mentionnes de nombreuses couvertures mémorables. En as-tu une préférée? avant que j'y travaille, moi, j'aimais beaucoup celle de Mylène Farmer dans les années 2000. Mylène Farmer, c'est la seule star, à ma connaissance, qui a fait 3 fois la cover de Têtu. Parce que, évidemment, c'est une icône gay par excellence en France. On était donc en 2008. Têtu était habitué des cover boys qui ont fait sa réputation, mais il n'y avait pas que ça. Et puis donc, il y avait Mylène Farmer qui se rasait. Alors, évidemment, 20 ans plus tard, ça paraît un peu désuet comme type d'imagerie parce que les interrogations sur le genre sont beaucoup plus poussées. Mais voilà, c'était une première étape. Ça reste une des couvertures dont on reparle le plus souvent, parce que c'est Mylène et que beaucoup ont le poster à la maison. Et depuis que tu y travailles? Plus récemment, c'est dur de choisir. J'avais adoré celle de Léon Salin à l'automne dernier. Il est torse nu et c'est un clin d'œil à l'histoire de Têtu, parce que ça rappelle les fameux cover boys, mais c'était la première fois, pour le coup, que c'était un homme trans. L'astuce, évidemment, me plaisait, surtout qu'elle a fait son effet. C'est une couverture qui m'a particulièrement tenu à cœur. Il y en a une autre, qui n'est jamais citée, mais parce que c'est une cover unique dans l'histoire de Têtu. C'est celle qu'on a faite au printemps 2022, qui montre des poupées russes portant les visages de Vladimir Poutine, Viktor Orban, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Donald Trump, et qui est la seule cover politique de l'histoire. C'était un défi de faire une qui ne soit pas ni sur une star ni sur un beau gosse, qui soit centrée sur un message politique. C'est une qui, malheureusement, vieillit bien parce que le message est toujours d'actualité et ses protagonistes sont toujours là. Le magazine est-il encore en péril? Y a-t-il un danger politique ou financier qui menace Têtu? Le principal danger est financier, comme toute la presse écrite, grosso modo, spécialement la presse spécialisée et spécialement la presse LGBT. Têtu, quand c'était né, c'était une petite chose, mais qui très vite a eu le soutien de Pierre Berger à l'époque, qui était donc le compagnon et l'homme d'affaires derrière Yves Saint-Laurent. Il a financé Têtu depuis son lancement en 1995 jusqu'à ce qu'il le vende quelques années avant sa mort en 2012 ou 2013. Et là, il y a eu des difficultés, parce qu'évidemment c'était l'idéal d'appartenir à un multimillionnaire gay militant socialiste. C'était idéal et à la fois, aujourd'hui, je préfère les choses comme elles sont. Il y a eu une liquidation en 2015, puis une tentative de relance en 2016-2017, mais les actionnaires sont partis, donc c'était remords. Là, l'actuelle relance, elle date de 2018. Et depuis 2018, on a déjà eu des péripéties, puisqu'on a eu un redressement judiciaire du groupe auquel il appartenait en 2023. On a été racheté au printemps 2024 par l'actuel groupe, soit l'OBNL Groupe SOS et la Fondation Le Refuge. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'ils sont solides et qu'on est à l'abri. Mais néanmoins, ça ne nous exonère pas. Il faut trouver les moyens de notre équilibre économique, parce que le meilleur moyen d'être indépendant, c'est quand même de trouver un modèle économique convaincant qui nous permet de tenir tout seul. Et là, en l'occurrence, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Plutôt que d'avoir uniquement recours aux abonnements et à la publicité, le but, ça a été de faire une diversification économique, c'est-à-dire d'y adjoindre une entité qui s'appelle Têtu Connect et qui fait de la formation en entreprise sur l'inclusion. Ça, c'est rémunéré, parce que les petites entreprises ont maintenant des budgets pour ça, et donc c'est par ce biais-là maintenant que Têtu trouve son équilibre. Le magazine fait la marque, le prestige et la réputation, et Têtu Connect a des contrats en entreprise pour faire avancer l'inclusion en entreprise et gagner de l'argent des budgets de formation. C'est un modèle proche d'atteindre son équilibre. Têtu pourrait-il perdre sa pertinence en vue des avancées au niveau des droits des personnes LGBTQ+? Je me souviens quand j'étais en 2013, quand on a voté le mariage pour tous. Il y a eu un petit flottement, mais qui a duré quelques secondes. Chez les militants, les journalistes spécialisés, etc., on s'est dit « Bon, bah, maintenant qu'on a le mariage, qu'est-ce qu'on va faire ?» On s'est demandé 2 secondes si c'était pas la fin de l'histoire et à quoi servirait un média comme Têtu maintenant que les combats essentiels étaient gagnés. Bon, encore une fois, ça n'a duré que quelques secondes, parce qu'on s'est souvenu que tous les combats ne sont pas terminés et que, de toute façon, ces combats ne sont pas acquis. Il faut poursuivre la lutte, notamment la lutte évidente contre l'extrême droite. C'est l'ennemi à la fois le plus évident et le plus dangereux dans nos sociétés occidentales depuis quelques années. De toute façon, moi, je pense que, in fine, même quand on aura fini de lutter, qu'on aura gagné tous nos droits, ce que je ne verrai pas de mon vivant, à mon avis, je pense qu'on aura quand même aussi fait la démonstration qu'on a, à travers nos décennies de combats et de luttes, développé une culture queer, une expertise sur bien des sujets. On a un regard queer sur le monde à défendre. C'était 30 ans plus tard, Têtu porte toujours bien son nom. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 27 octobre 2025 dans le magazine Fugue.
Je cours toujours à 88 ans. Un témoignage de Robert Dion, paru le 23 septembre 2025 dans La Presse. À 88 ans, les bienfaits de l'activité physique quotidienne me permettent de rester motivé, actif et heureux. Lors d'un effort intense ou d'une pratique sportive exigeante, je prends pleinement conscience à quel point ma forme physique est essentielle pour nourrir mon énergie et ma vitalité. Je fais partie de ceux qui croient profondément aux bienfaits de la course à pied et qui en parlent avec fierté. Pouvoir maintenir mon rythme de course est pour moi un privilège et une grande source de joie. Courir procure un sentiment unique d'euphorie et de liberté. C'est une véritable thérapie pour l'esprit. Elle libère du stress et favorise la clarté mentale. En compétition, l'énergie de la foule agit comme une force invisible qui nous soulève et nous pousse vers l'avant à chaque acclamation. À ma retraite, à l'été 1998, je me suis engagée à suivre un programme d'entraînement cardio-respiratoire afin de préserver un mode de vie sain le plus longtemps possible. Depuis, mes journées commencent tôt. Je me lève à 5 heures pour commencer mon entraînement et à 6 heures, je pars pour un parcours de 7 kilomètres composé d'une marche rapide de 3,5 kilomètres suivi d'une course de 3,5 kilomètres. Le samedi, une course de 10 kilomètres est devenue un incontournable de ma routine. Une course en cadeau. Pour souligner mon 80e anniversaire, le 1er octobre 2017, je me suis lancé un défi. Participer, pour la première fois de ma vie, à une épreuve chronométrée de 10 km sur la piste cyclable entourant le lac Boivin à Granby. Cette première compétition de groupe m'a donné la piqûre. L'événement fut inoubliable. Sur 1040 participants, 934 ont franchi la ligne d'arrivée. Mon temps officiel fut de 1h41, me classant 436e. Quelle fierté d'avoir devancé plusieurs coureurs, dont certains avaient moins de la moitié de mon âge. L'année suivante, le 30 septembre 2018, ma petite fille Émilie, alors âgée de 27 ans, a accepté de courir à mes côtés. Nous avions convenu de participer séparément, chacun à son rythme. Elle avait confié à sa mère « Je ne peux pas laisser mon grand-père octogénaire faire un meilleur temps que moi. » À l'arrivée, Émilie a triomphé en 59 minutes 41 secondes, tandis que mon temps fut de 1 heure 1 minute 42 secondes. Ces deux petites minutes d'écart restent pour nous un souvenir inoubliable, rempli de complicité et d'émotion. Pour beaucoup, il paraît inimaginable qu'à 88 ans, on puisse courir 10 km en 1 heure 8 minutes. Pourtant, je ne suis pas un athlète et je n'utilise aucun complément sportif. J'ai simplement découvert qu'avec un entraînement quotidien régulier, le corps humain recèle une énergie insoupçonnée et souvent sous-exploitée. Les ingrédients sont simples. Détermination, discipline, persévérance et adoption d'un mode de vie sain centré sur l'activité physique régulière. Aujourd'hui, ma condition physique me permet d'affirmer que mon âge biologique est bien plus jeune que mon âge chronologique. Cela me permet de ralentir les effets du vieillissement, de profiter pleinement de la vie et de continuer à poursuivre de nouveaux objectifs. Ma dernière réalisation fut le 10 km du Marathon de Montréal. Dans une ambiance électrisante et sous une température idéale, j'ai franchi la ligne d'arrivée en 1 h 7 52 secondes. Fait étonnant, j'étais le seul octogénaire parmi les 6000 coureurs inscrits. Tant que l'énergie me sourira, je souhaite maintenir ce rythme et, qui sait, peut-être viser un jour une place dans le livre des records. Le vieillissement est inévitable, mais il peut être ralenti par un mode de vie sain, une alimentation équilibrée et, surtout, la pratique régulière d'une activité physique. Pensée du jour, pouvoir courir et rester actif est un privilège. Fixez-vous des objectifs réalistes, engagez-vous dès maintenant et surtout, n'abandonnez jamais. Les bonnes choses viendront. C'était « Je cours toujours » à 88 ans. Un témoignage de Robert Dion paru le 23 septembre 2025 dans La Presse.
Climatisation. La demande devrait tripler d'ici 2050, alerte l'ONU. Un texte de l'Agence France-Presse publié le 11 novembre 2025 sur TVA Nouvelles. Face à la multiplication des vagues de chaleur, la demande d'appareils de climatisation pourrait plus que tripler dans le monde d'ici 2050, prévient le Programme des Nations Unies pour l'environnement, appelant à l'adoption de solutions de refroidissement moins polluantes. L'étude Global Cooling Watch 2025, publiée lundi par le Programme des Nations Unies sur l'environnement en marge de la COP30 à Belém au Brésil, révèle, citation, que la demande en climatisation pourrait plus que tripler d'ici 2050 si les tendances actuelles se maintiennent. Fin de citation. Cette augmentation, citation, serait due à la croissance démographique et à l'accroissement des richesses, à la multiplication des épisodes de chaleur extrême et à l'accès croissant des ménages à faible revenu à des systèmes de refroidissement plus polluants et moins performants, souligne l'organisation. En conséquence, les émissions de gaz à effet de serre liées à la climatisation, citation, doubleraient presque en 2050 par rapport au niveau de 2022, atteignant environ 7,2 milliards de tonnes d'équivalent de CO2 d'ici 2050, prévoit le programme des Nations Unies. Fin de citation. Pourtant, citation, face à la multiplication et à l'intensification des vagues de chaleur meurtrières, l'accès au refroidissement doit être considéré comme une infrastructure essentielle au même titre que l'eau, l'énergie et l'assainissement. Fin de citation, a souligné dans un communiqué Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais la climatisation à elle seule, citation, ne suffira pas à résoudre la crise de la chaleur, car elle entraînerait une hausse des émissions de gaz à effet de serre et une augmentation des coûts. Fin de citation. Ainsi, l'organisation recommande la généralisation de l'adoption de solutions dites passives, comme l'occultation du soleil, les ventilations manuelles, la végétalisation ou une meilleure isolation, voire d'autres solutions telles que le refroidissement basse consommation et le refroidissement hybride, combinant ventilateurs et climatiseurs à faible ou sans consommation d'énergie. Fin de citation. Ces solutions, citation économes en énergie et fondées sur la nature, peuvent contribuer à répondre à nos besoins croissants en refroidissement et à protéger les populations, les chaînes alimentaires et les économies des effets néfastes de la chaleur, tout en poursuivant les objectifs climatiques mondiaux, fin de citation, a poursuivi Mme Andersen. Près des deux tiers des réductions d'émissions possibles, citation, proviennent de solutions passives et à faible consommation d'énergie, ce qui souligne l'urgence de les intégrer aux politiques nationales et à la planification urbaine, insiste le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle permettrait, selon l'organisation, citation, d'améliorer l'accès au refroidissement pour 3 milliards de personnes supplémentaires d'ici 2050, et dont les personnes vulnérables et à faible revenu, mais aussi d'économiser 17 000 milliards de dollars en coûts énergétiques cumulés d'ici 2050. Fin de citation. La Fondation Climate Works estime à 3 milliards le nombre de nouveaux climatiseurs qui seront vendus dans le monde entre 2025 et 2050. C'était climatisation. La demande devrait tripler d'ici 2050, alerte l'ONU. Un texte de l'Agence France-Presse, publié le 11 novembre 2025 sur TVA Nouvelles.